Gauthier.
Midi 48, 418 971 1021. Si vous avez des choses à me dire, s'il se passe quelque chose sur la route. Louis Gauthier qui est au bout du fil, je pense qu'il est dans l'ouest du Québec. Salut Louis.
Hey, bonjour Québec, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien. T'as décidé de prendre ton camion puis de te promener toi dans les derniers jours.
Ben ça fait du bien parce que la semaine dernière, depuis mon arrivée de Winnipeg, là, les neurones n'ont pas arrêté. Puis là, quand je vais arriver à Québec cet après-midi, ça n'arrêtera pas non plus parce que là, c'est le temps de l'impôt, c'est le temps de la fiscalité, c'est le temps des affaires. Ça fait que j'ai quelques clients à m'occuper. Alors, je vais m'occuper de ça, un petit dossier d'immigration par-dessus ça.
Donc là, tu t'es dit, je vais faire comme dans le temps, je vais faire une run de char comme moi, je fais des runs de moto l'été pour me vider la tête.
Tu as tout compris. Ça fait du bien. Puis en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que je vais arriver à la maison, le ménage va être fait.
Oh boy. Pascal, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça?
Non, je vais me taire cette fois-ci. Oui, je suis déçu.
Je vais voir si elle mangeait ou bien elle m'écoutait.
C'est qu'on en rajoute.
On peut faire deux choses en même temps, mon cher Louis, quand on est une femme.
Oui, je le sais, c'est pour ça qu'on est mariés, on a besoin de vous autres.
On en rajoute tout le temps quand Pascal est en place. Hey, on parle d'actualité internationale. Mm-hmm. C'est sorti hier, cette nouvelle-là, mais c'est encore à propos. La justice haïtienne qui a ordonné qu'une cinquantaine de personnes soient jugées pour l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui est survenu en 2021 directement dans le palais présidentiel. Mm. Puis ce qu'il y a de particulier dans cette nouvelle-là, c'est pas qu'un président se soit fait tuer dans ce secteur-là. Je veux dire, Haïti a toujours été tout croche tout le temps. Puis on a tellement hâte qu'un jour, pour la population haïtienne, ça puisse bien aller. Ce qui me surprend, moi, c'est que c'est la femme,
la madame Moïse,
qui va passer devant la justice. Puis je regardais un peu ce qu'elle avait dit aux enquêteurs. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a une équipe armée qui est arrivée dans le palais, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait dit qu'elle s'était cachée en dessous du lit présidentiel. Problème étant que madame, elle n'est pas petite, puis elle passe pas en dessous du lit. Donc là, tu comprends que les enquêteurs ont commencé à se poser des questions par rapport à son témoignage. Donc, elle ne se serait pas cachée en dessous du lit parce que c'est impossible. On a décidé de la poursuivre en justice.
Moi, je trouve, encore, je demeure prudent dans l'histoire de la conjointe du président défunt, parce que il y a quand même une sécurité là, autour du palais présidentiel, puis il y a eu un breach dans la sécurité, il y a eu une entente. Ça me rappelle beaucoup d'histoires de présidents assassinés dans leur résidence, puis la garde rapprochée était de connivence avec ceux qui venaient faire le putsch. Que la madame soit impliquée dans le dossier. Mais écoute, tout se peut, mais je laisse encore des doutes parce que là, on est en train de frapper sur un paquet de personnes au niveau de la justice haïtienne. Puis, pour ceux qui connaissent comme moi un peu la justice puis ce qui se passe en Haïti, là, je dois vous dire que je ne voudrais pas me faire juger pour un ticket de vitesse ou un ticket de stationnement à Port-au-Prince.
Non, mais ça a toujours été... Louis, ça a toujours été tout croche. Puis, c'était un commando d'à peu près 20 personnes, principalement des mercenaires qui étaient colombiens.
Oui, effectivement.
Les gardes du corps semblent ne pas avoir intervenu. Fait qu'il y avait une entente quelque part. Puis la femme de Jovenel Moïse a dit « Non, moi, quand c'est arrivé, je me suis caché en dessous du lit, alors que quand tu mesures l'espace entre le sol et le lit, tu vois bien qu'à la grosseur qu'elle a, elle passait pas. » Et après ça, elle a mentionné qu'elle s'est fait tirer dans un orteil parce que des membres du commando auraient tiré dans son orteil pour voir si elle était décédée. T'sais, un membre du commando qui veut éliminer tout le monde, il tire pas dans l'orteil. S'il est pas sûr, il retire une balle dans la tête puis il repart après. Là. C'est du grand n'importe quoi. Là.
Mais ça peut être... Ça, je te dis que ça... Yannick, ça peut... Elle peut faire partie du groupe. Parce que, écoute, elle a de l'argent, elle a une pension à vie, pour ce qui est la pension à vie en Haïti. Elle avait tout ça, là, la veuve d'un président. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait un intérêt pécunier qui cachait ça? Est-ce qu'il y avait d'autres intérêts? Est-ce que ça allait bien dans la vie de couple entre les deux? Ça, on ne le sait pas. Il y a un paquet de choses. Mais moi, c'est le groupe de personnes, il y en a une cinquantaine. Mais il semble que c'est beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes impliquées pour l'assassinat d'un président, alors que c'est un commando. C'est vraiment un groupe de personnes restreint. Parce qu'imaginez, s'il y a 50 personnes, les dangers qu'il y avait, qu'il y ait une fuite avant que ça se produise. Il faut tout le temps penser avant. 50 personnes au courant d'un assassinat de cette ampleur-là, il y a des dangers de fuite que qu'on le sache avant même que l'événement se produise. Alors, moi, c'est pour ça que je dis, c'est un groupe de mercenaires qui est arrivé avec certaines personnes autour, un ancien président, un ancien juge de la Cour suprême haïtienne. Il y a des gens là-dedans, mais 50 personnes, c'est pour ça que moi, je lève mon point d'interrogation là, sur toute l'histoire.
Mais on a-tu hâte que ces gens-là aient la paix avec la politique là-bas? T'sais? Pensons à Papa Doc, Bébé Doc, des tout croches qui sont partis avec l'argent constamment. T'sais. Ce peuple-là est pauvre encore à ce jour, alors qu'on a donné des milliards et des milliards de dollars à ce pays-là pour qu'il réussisse à s'en sortir. Puis à chaque fois que quelqu'un prend le contrôle du pays, ben, il prend l'argent puis il sac son camp et où il se fait tirer.
Le problème en Haïti, Yannick, c'est le problème haïtien en tant que tel, c'est que tu as deux fractions. La diaspora qui est à l'extérieur d'Haïti, qui, elle, demande à ce qu'on intervienne, qu'il y ait des forces militaires qui interviennent, mais les gens à Haïti disent non, donnez-nous l'argent, donnez-nous la formation, puis on va s'en occuper. Puis là, ça rejoint ce que tu viens de dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Ce n'est pas des millions, c'est des milliards de dollars qui ont été donnés en aide internationale en Haïti. Puis il y en a qui commencent à... C'est drôle, hein? On ne s'interroge pas beaucoup sur l'argent qu'on donne en Haïti, mais on commence à mettre un frein à l'argent qu'on donne à l'Ukraine. Pourtant, Haïti, c'est un problème qui dure de beaucoup plus longtemps de ce qui peut se produire, qui se produit présentement en Ukraine. Alors, c'est des questions qu'on se pose, mais c'est un problème essentiellement à la base entre deux fractions haïtiennes, la diaspora et les gens qui demeurent sur place.
OK. Hey, on change de pays. On s'en va aux États-Unis maintenant. Donald Trump a challengé Joe Biden.
Oui. Vous le saviez, on en a parlé dernièrement. Parce que c'est un plan B, là, les démocrates le savent très bien que le danger, c'est que Donald Trump ait le ticket républicain en fin de semaine, parce que là, c'est les primaires de la Caroline du Sud, c'est l'État de Nikki Haley où elle a été deux mandats gouverneur, mais présentement, elle score pas fort dans son propre État, c'est Donald Trump qui ramasse tout. Et un peu pour renverser la vapeur, parce que c'est une semaine de Donald Trump à la cour, puis une semaine dans les primaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, il est allé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas dans la politique américaine. Qu'est-ce que va faire Joe Biden dans les débats télévisés? OK, il y a quelque chose qu'un président américain fait au Super Bowl, c'est qu'il fait toujours un message au Super Bowl, puis lui, Joe Biden, l'a pas fait cette année. Alors, c'est tout de suite, on a levé le flag en disant, bon, est-ce qu'il va faire des présentations télévisées, est-ce qu'il va faire des débats radiophoniques, des débats télévisés contre le représentant républicain? Tout le monde en doute. Puis, on va essayer de se prendre une... on va peut-être envoyer la vice-présidente, puis ça, c'est pas mieux. La vice-présidente, elle va se faire démolir contre Donald Trump. Alors, on voit que c'est un problème. Mais ce que j'ai remarqué pour avoir passé les deux dernières journées, Yannick, aux États-Unis, c'est que les Américains, là, s'en foutent royalement de ce qui se passe en politique, là. Nous, on en parle ici, là, mais aux États-Unis, on n'en parle pratiquement pas, à part les analystes politiques dans les principales chaînes de diffusion radiophonique ou télévisuelle aux États-Unis. Mais quand je parle aux Américains, là, hey, on se promène encore dans le coin de Naperville, en Chicago, avec des anciens stickers et bumpers d'Obama-Biden. Là. Ça vous donne une idée, là, ça représente ça, là. Présentement. Alors, c'est défraîchi, on s'en fout royalement.
OK. Mais, tu sais, je ne peux pas croire qu'on va mettre quelqu'un qui n'est pas là au pouvoir. T'sais, je ne comprends pas. Tu sais, les Américains sont très fiers, 330 millions d'Américains sont très, très fiers. La moitié était pro-Biden, la moitié était pro-Trump. Qu'est-ce que ça va donner, ceux qui étaient pro-Biden? Vont-tu accepter quand même de revenir avec Biden en se disant, regarde, c'est mieux un président complètement mort qu'un gars comme Trump? Ou ils vont dire, par dépit, je pensais voter pour Biden, mais il n'est pas là vraiment, puis je vais voter pour Trump. C'est à l'avantage de Trump?
Bien, le résultat que je vois, que ce soit à l'avantage de l'un ou l'autre, le problème que je vois à cette élection-ci, cette année, en 2024, ça va être le faible taux de participation à l'élection. Moi, je persiste et signe depuis la dernière élection. Là. Cette année, si on avait les deux propagandistes qu'on a là, présentement Biden et Trump, on risquait de voir à la prochaine élection un faible taux de l'électorat aux prochaines élections présidentielles. C'est le danger qu'on risque d'avoir. Plutôt que d'avoir honte, on va se cacher.
Mais ce serait à l'avantage de Trump?
Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça risque d'être à l'avantage des démocrates. Parce que les démocrates vont sortir peut-être plus que les républicains quand ce genre de situation-là arrive. les démocrates, historiquement, sortent plus. Ça risque d'être très serré. Puis c'est pour ça que je vous parlais d'un match nul aux élections. Qu'est-ce que ça pourrait provoquer dans l'histoire américaine? C'est-à-dire la Chambre des représentants qui vote pour choisir le président, puis c'est le Sénat qui vote pour le vice-président. On risque d'avoir... Tout est sur la table, sur le menu, là, Yannick, tout est sur la table présentement. Un faible taux de participation, une égalité au vote du collège électoral qui nous amènerait devant un vote dans les deux chambres pour déterminer la présidence et la vice-présidence. Tout est sur la table pour voir ces faits historiques-là dans l'histoire américaine cette année.
Tu voulais nous parler des Chinois qui sont très présents dans le Détroit.
Oui. Là, ça reprend. Puis ça, bien, ça revient encore à la faiblesse de la gouvernance occidentale. Malheureusement, on le voit, la semaine dernière, Donald Trump a parlé que lui, il ne financera pas. Si les gens ne donnent pas l'argent à l'OTAN comme ils devaient donner selon leur portion, on en parlait la semaine dernière. Bien, là, on voit que ça rouvre la porte. Les Chinois qui vont aller renforcer leur présence navale dans le détroit de Taïwan, parce qu'il y a beaucoup de présence de navires australiens, néerlandais et tout ce que tu veux dans le coin, américains également, pour protéger le port de Taipei, parce que c'est quand même un port très, très important, là. Toutes les petits Q-tips, les affaires de plastique que vous achetez au Dollarama, ça vient de là. Alors, vous comprenez que c'est des milliards de dollars qui sont dans ce coin-là. Mais moi, je me suis posé la question, Yannick, cette semaine, en terminant. Quelle est l'importance que nous, ici au Canada, on donne à la sécurité de notre territoire suite à ce que Trump a dit la semaine dernière, puis de la façon dont le gouvernement libéral de Justin Trudeau a parlé en disant « ça va être dangereux pour nous ». Puis moi, j'avais dit « écoute, peut-être qu'on se fie trop à la présence des Américains pour faire la protection continentale ». Mais j'ai sorti des calculs, puis des sommes qui m'ont fait sursauter parce que je n'y croyais pas, puis j'ai fouillé là-dedans. L'OSBL au Canada, l'organisation sans but lucratif au Canada, c'est 42 milliards de dollars par année. 42 milliards de dollars par année. Le budget de la défense, 26,5 milliards de dollars par année. Ça veut dire que c'est 1 050 $ par citoyen pour les OSBL au Canada et 66,50 $ pour l'armée par citoyen au Canada. Ça démontre qu'on est une social-démocratie. Puis qu'on se fie sur nos voisins pour notre sécurité. C'est toutes nos taxes, les taxes municipales, provinciales, fédérales, nos impôts qui payent tout ça, ces argents-là. Et ce qu'on voit dans d'autres pays où ça existe, des social-démocraties, bien, à 18 ans, tout le monde va faire son service militaire, qu'on soit en France, qu'on soit en Suisse, nommez-les les pays en Europe là, qui font partie de l'OTAN, tout le monde a fait son service militaire à partir de 18 ans. Est-ce que c'est le cas au Canada?
Non.
Non.
Du tout.
Est-ce que vous l'auriez fait à 18 ans, votre service militaire? Non, c'est pas dans notre ADN. Mais il y a encore des gens comme moi, comme des retraités de l'armée, des vétérans, tout ça, qui sont prêts à aller défendre le terrain, mais... On est très, 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 très peu. Ouais. Puis on est rendu très, très, très vieux.
J'ai pas mal d'expérience de vie. Je suis dans la quarantaine. Mais tu comprends que depuis que je suis jeune, on me dit que le territoire du Canada est bien défendu d'un océan à l'autre, sauf en haut. Et c'est ce qu'on nous avait appris au secondaire. En haut, c'est les Autochtones qui nous défendent. Ils sont en skidoo avec leur arme à feu. Puis ils patrouillent avec des motoneiges. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils défendent? Puis là, on me dit, bien, ils surveillent les Russes quand ils passent, puis ils surveillent les Chinois quand ils passent avec leurs sous-marins. Mm-hmm. Puis là, vous me dites qu'ils ont quoi exactement? Ils sont en motoneige avec des armes à feu, puis ils surveillent des sous-marins de Chinois et Russes. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Ça... On s'est toujours fié sur les Américains, mais nous autres, au Nord, on défend absolument rien.
Ça revient à ce que je disais la semaine dernière, le Canada... est rendu ailleurs que son aura de diplomatie de négociateur sous Lester B. Pearson en 1955, après la guerre de Corée. On est rendu au-delà. parce qu'on le voit de quelle façon les Russes et les Chinois prennent énormément de place pour protéger l'économie, parce que c'est toujours une question de gros sous là-dedans, pour aller encercler le port de Taipei, là, parce qu'on va protéger des milliards de dollars. Puis ce qu'on voit de Vladimir Poutine, bien, il fait ce qu'il a appris dans le temps qu'il était dans le KGB, lors de faire disparaître des personnes sans laisser de traces. Puis c'est un dictateur. On ne veut pas le dire qu'il est dictateur, mais c'est un dictateur. Donc, il y a une très, très grande... sa main, elle est très importante sur l'ancienne URSS. Tout le monde a peur dans l'ancien bloc de l'Est et on se garde bien de l'intimider. Puis, je vous dis, là, l'Ukraine, ça va pas bien, même si on leur donne l'argent. Ils ont commencé à perdre du territoire cette semaine. Puis, je m'attends que ça sera pas mieux d'ici le mois de mai, là, ce qui se passe en Ukraine. On va vraiment aller céder le territoire du Donbass. Moi, je pense que l'année 2024 va se terminer avec une cession de territoire, comme est arrivé en 2014 avec la Crimée.
On s'en sortira jamais, mon Louis, mais la bonne nouvelle, c'est que tu es là pour nous informer à chaque fois.
Mais c'est ce que j'essaie de faire.
Le test cognitif qui a été demandé la semaine passée, je pense que c'est jeudi ou vendredi sur le président Biden, ça va-tu se faire ou ça a été accepté?
C'est pas encore fait. Puis justement, on n'ira pas faire cette demande-là parce que de toute façon, on a juste à demander le rapport médical annuel du président américain, parce qu'en début de chaque année, le rapport médical, le dossier médical est connu. Il est en santé, il marche bien, tout est là. On ne le demande pas, puis là, on va spécifier quelque chose parce que depuis que Joe Biden est président américain, il n'a jamais soumis son dossier médical à la nation. C'est le premier. Alors là, on y va de façon spécifique. Alors, c'est sûr qu'il ne le donnera pas, puis qu'il n'y a pas un médecin qui va aller donner ça.
Continue ton beau voyage de camion, mon Louis, puis on s'en jase la semaine prochaine. L'essence est à combien à Saint-Liboire, là?
Ah, là, écoute, j'ai vu 1$. Moi, je vois le t'as 1$. Ah non, ça, c'est le diesel. Mais je te dois dire, ça doit être aux alentours d'1,54$. Mais moi, je ne tanque pas mon auto ici. Je la tanque à Winnipeg à 1,15$ le litre.
Écœure-nous pas avec ton bonheur.
Sans problème. Je vais être là la semaine prochaine, d'ailleurs.
Salut, mon Louis.
Salut, Louis.
Bye bye. Hey, bonne journée, tout le monde. Bye. Bye, bye.
L'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international à qui on jase à chaque semaine. 1h05, on fait un petit aparté musical. On s'en va avec l'excellent band Blink-182.
Oh, yes.
All the Small Things sur les ondes de boulevard.